VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 18h30 temps universel. On est mardi 18 juillet 2017 au sommaire. Report des élections législatives qui étaient prévues l'an prochain au Gabon. En Côte d'Ivoire, 10 ans de prison requis contre un ancien ministre de Laurent Gbagbo. Le verdict attendu d'ici jeudi. Au Nigeria, des dignitaires de l'ethnie Kanouri, majoritaires au sein de Boko Haram, demandent au gouvernement de négocier avec le groupe armé islamiste. Le président américain Donald Trump confirme l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, signé sous l'administration Obama. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé d'un report des élections législatives. Elle justifie sa décision par la nécessité d'inclure les réformes électorales proposées par le récent dialogue politique. Le point avec Lionel Gaïma.
Les élections des députés de l'Assemblée nationale doivent être organisées au plus tard au mois d'avril 2018 au lieu du 29 juillet comme initialement prévu. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle gabonaise. Elle estime que la prise en compte de réformes électorales proposées par le dialogue politique nécessite ce report. Les députés de la 12e législature en place depuis février 2012 et élus pour 5 ans resteront donc en fonction jusqu'en avril 2018. Le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé avait demandé à la Cour un report de 24 mois des élections législatives. Il estimait le temps nécessaire pour appliquer les réformes électorales du dialogue politique entre 18 et 24 mois. Monsieur Issoze Ngondé soutenait que la Constitution ne permettait pas une réforme électorale moins d'un an avant l'échéance prévue. La Cour a décliné ce point avançant que cela ne s'applique pas en la matière, les élections législatives ayant été une première fois repoussées en décembre 2016. Le dialogue politique qui a eu lieu en avril et mai a été voulu par le président Ali Bongo, mais rejeté par son rival Jean Ping.
La République du Congo, les Nations Unies et 16 autres partenaires humanitaires lancent un appel de fonds de près de 24 millions de dollars pour venir en aide à 138 000 personnes affectées par la crise dans la région du Pôle. Les violences et l'insécurité qui secouent certains districts du département du Pôle depuis avril 2016 ont des conséquences dramatiques sur la population et ont provoqué à ce jour le déplacement de près d'une personne sur trois dans ce département, selon un communiqué des Nations Unies publié aujourd'hui. Le procureur du tribunal d'Abidjan a requis 10 ans de prison contre Assoua Adou, un ancien ministre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, jugé devant une cour d'assises pour atteinte à la sûreté de l'État. L'avocat général Drissa Soro a demandé à la cour qui juge M. Adou depuis une semaine de le reconnaître coupable des faits de complot, organisation d'une bande armée, détention illégale d'armes et de le condamner à 10 ans de prison. Le procureur n'a pas été capable de produire des preuves de ces accusations, a réagi de son côté Maître Ange Rodrigue Daïdjé, l'un des avocats de l'accusé. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire veulent lutter ensemble contre le terrorisme. C'est ce qu'ont affirmé les présidents Roch Marc Christian Kabore et Alassane Ouattara ce mardi à Ouagadougou. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont été frappés en 2016 par les attaques terroristes de Ouagadougou et Grand Bassam, obligeant les deux pays à renforcer leur coopération stratégique. Les enquêtes ont montré qu'il existait des liens entre les deux attaques. Le chanteur de reggae guinéen Eli Kamano, arrêté hier pour avoir participé à une manifestation non autorisée contre le président Alpha Condé à Conakry, est toujours en garde à vue ce mardi. Il a été arrêté à Matoto, en grande banlieue de Conakry, avec trois de ses camarades, alors qu'il avait appelé à une marche contre les appels à modifier la constitution pour permettre à M. Condé de briguer un troisième mandat. Au Niger, Baba Alpha, journaliste d'une chaîne de télévision indépendante, a été condamné ce mardi à 2 ans de prison. Les autorités l'accusent d'avoir usurpé la nationalité nigérienne. Le point avec Solange Niamoulissa.
Baba Alpha et son père, âgé de 70 ans, ont été condamnés à 2 ans de prison et à 10 ans de privation de tout droit civique et politique. Les deux prévenus sont également interdits de tout emploi public et leurs actes d'état civil jugés faux seront confisqués et détruits. Baba Alpha et son père sont écroués depuis le 3 avril à la prison de Niamey, initialement pour faux et usage de faux en écriture, en lien avec la nationalité nigérienne du journaliste. Les faits ont ensuite été requalifiés en usage de faux. Son avocat, Maître Boubacar Mossi, a déclaré que c'est la mort civile qui a été prononcée contre eux, car ils sont déclarés apatrides. Il a affirmé que Baba Alpha, né et grandi au Niger, n'a d'autre nationalité que la nationalité nigérienne. L'avocat a annoncé qu'il allait faire appel de la décision qu'il juge non conforme à la loi nigérienne et aux conventions internationales ratifiées par le Niger. Selon la presse, Baba Alpha serait de nationalité malienne et aurait acquis la nationalité nigérienne de manière irrégulière.
Au Nigeria, des dignitaires Kanouri ont appelé les djihadistes à négocier avec le gouvernement pour mettre fin à leur insurrection sanglante. Cette ethnie est majoritaire au sein de Boko Haram et dans le nord-est du pays. Les explications d'Eric Manerakiza.
L'appel a été lancé vendredi. Un groupe d'influence de l'ethnie Kanouri composé de militaires et de notables à la retraite, réuni au sein du Forum des Anciens du Borno, estime qu'il est temps que les djihadistes déposent les armes pour se repentir et rejoindre le reste de la société. Le même groupe indique que le gouvernement peut négocier la fin de l'insurrection en utilisant la même méthode qui a abouti à la libération de certains captifs, dont une centaine de lycéens de Chibok. Mais cette initiative suscite moins d'engouement. Certains observateurs pensent que l'appel vise à préserver des intérêts ethniques. Abdoulaye Bouawawassé, expert en sécurité, estime que les notables Kanouri veulent tâter le terrain auprès des autorités. Un responsable des milices civiles engagées aux côtés de l'armée contre Boko Haram a qualifié cette proposition de mauvaise foi. Abba Hadji Kali considère les djihadistes comme des ennemis jurés de la nation.
Le président sud-soudanais Salva Kiir a déclaré l'état d'urgence sur certaines parties du nord-ouest du pays. Le communiqué lu à la télévision nationale ne donne aucune raison sur cette décision. Un conflit interne entre l'armée fidèle au président Kiir et des rebelles a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés depuis 2013, selon l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Trump, qui avait promis durant sa campagne électorale de déchirer l'accord sur le programme nucléaire iranien, a décidé finalement de le préserver et de poursuivre pour le moment la politique de son prédécesseur Barack Obama. Le point avec John Linden.
Donald Trump l'a toujours pensé, l'accord sur le nucléaire iranien est le pire accord jamais paraphé par les États-Unis. Il devrait donc être déchiré selon lui. Mais hier soir, son administration a admis que Téhéran remplissait les conditions du texte prévoyant un contrôle international de la nature pacifique du programme nucléaire en échange d'une levée progressive des sanctions qui étranglent l'économie iranienne. Depuis le 16 janvier 2016, date de l'entrée en vigueur de cet accord, l'administration américaine doit tous les 90 jours le certifier auprès du Congrès, c'est-à-dire attester que Téhéran en respecte les termes. La décision de l'administration Trump était largement attendue, Washington ne voulant pas risquer de se mettre à dos les autres pays signataires. Bien avant la Maison-Blanche, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait en juin dernier félicité l'Iran pour le respect de ses engagements. Le gouvernement américain a toutefois annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran pour son programme de missiles balistiques et ses actions au Moyen-Orient.
Le président américain Donald Trump a par ailleurs accusé les démocrates d'être en grande partie responsables de l'échec de la réforme du système de santé promise depuis 7 ans par les républicains et une des promesses majeures de sa campagne électorale. Cet échec marque une défaite cuisante pour les républicains qui contrôlent à la fois la Chambre des représentants, le Sénat et la Maison-Blanche. Un Palestinien a perpétré ce mardi une attaque à la voiture Bélier en Cisjordanie occupée, blessant deux soldats israéliens avant d'être tués par balles. Le premier ministre libanais a annoncé que les forces libanaises vont lancer une opération près de camps informels de réfugiés à la frontière syrienne, où elles ont récemment été la cible d'attaques. Cette annonce intervient alors que le président Michel Aoun a mis en garde contre les manifestations d'hostilité envers les réfugiés syriens après que des troupes libanaises ont attaqué fin juin la région. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Jacques Aristide.
Le Niger a ordonné la fermeture définitive de plusieurs sites aurifères artisanaux dans le sud-ouest du pays où travaillent au moins 20 000 orpailleurs nigériens mais aussi burkinabés, maliens et sénégalais. D'après un fonctionnaire du ministère des Mines, il s'agit de mettre fin à l'anarchie sur ces sites en vue d'une exploitation plus moderne et rentable pour l'État. En février dernier, le gouvernement nigérien a fermé un autre site aurifère dans le Djado à Agadez. En Côte d'Ivoire, suspension de la grève à l'entreprise pétrolière publique Petrosi après 2 semaines d'arrêt de travail contre ce que le syndicat des salariés a qualifié de dépenses incongrues du directeur général, des voyages en jet privé et des contrats farfelus. La direction et les travailleurs sont tombés d'accord sur un plan social en cas de licenciement dans le cadre d'un projet de privatisation. La production pétrolière ivoirienne a doublé l'an dernier pour atteindre 45 000 barils par jour. Vonette Salam Andriambololone est la nouvelle ministre des Finances de Madagascar. Sa nomination intervient au lendemain de la démission de Gervais Rakotoarimanane pour faute de soutien du gouvernement. Il était connu pour sa rigueur budgétaire. Ex-secrétaire général de ce même ministère, Madame Andriambololone a également été au cadre à la Banque centrale de Madagascar et la Banque mondiale.
On démarre cette page de sport avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
De grandes décisions attendues au symposium de la CAF qui débute aujourd'hui à Rabat.
Tout à fait, décaler la CAN de janvier pour la jouer entre juin et août, maintenir son organisation tous les 2 ans, augmenter le nombre d'équipes qualifiées pour la phase finale jusqu'à 32. Ce sont là, entre autres, les points saillants de ce symposium. La nouvelle équipe dirigeante de la CAF parle de révolution. Pour en savoir davantage, nous avons joint Sita Sangaré, président de la Fédération Burkinabé de football et membre de la commission CAN à la CAF.
Beaucoup de joueurs ont bravé leur club pour venir et après leur CAN ont vu leur carrière stopper net. Tout simplement parce que la CAN se déroule généralement vers janvier, février, en plein championnat européen.
Président, et sur le passage des équipes de 16 à 32.
Nous avons 54 fédérations en Afrique, donc c'est un peu justice que d'accroître un peu le nombre. Mais à quoi dans des proportions raisonnables.
On maintient la CAN pour chaque 2 ans?
Oui, parce que la Coupe d'Afrique, c'est un événement important pour le continent. C'est bon pour nos États, je peux peut-être rester calé sur la périodicité des 2 ans.
Sita Sangaré, joint à Rabat.
La folle saison d'Al Ahly.
C'est hallucinant, le club historique égyptien a couronné sa saison hier en remportant le derby du Caire face au rival de toujours, le Zamalek, battu 2-0. Une rencontre qui conclut une saison époustouflante. Quelques chiffres, le national affiche 34 rencontres, 25 victoires, 9 matchs nuls et 0 défaite. Les hommes d'Oussam Al-Badri ont inscrit 62 buts contre 14 encaissés pour un total de 84 points. Au classement, il devance Misr Makaza de 10 points et le Zamalek 3e à 18 points. Et Al Ahly, à l'occasion de faire le doublé championnat Ligue des champions, le club est en quart de finale de la compétition continentale.
Dénouement également du championnat au Gabon et le CF Mounana encore champion.
Oui, s'il a pour l'instant du mal sur la scène continentale, le CF Mounana a été sacré champion de la saison 2016-2017. Pour la seconde année consécutive et représentera donc le pays en Ligue des champions. Lors de la dernière journée, Mounana s'est adjugé le titre en venant à bout 1-0 de l'Olympique de Mandji. Il devient ainsi le second club à remporter le titre national 2 saisons de suite après Mangasport.
La Russie surprend l'Italie et la Mannschaft tenue en échec à l'Euro féminin aux Pays-Bas.
Oui, victoire des Russes sur les Italiennes 2-1 lors de la 2e journée. Elles prennent du même coup la tête du groupe B. L'Allemagne, l'une des grandes favorites pour conserver son titre, a été tenue en échec 0-0 par la Suède.
Victoire in extremis de Michael Matthews à l'étape du jour du Tour de France.
L'Australien s'est imposé lors de la 16e étape après examen de la photo finish du sprint à l'arrivée. Il a devancé le Norvégien Edvald Boasson Hagen. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune de leader à la veille de la première étape dans les Alpes.
Merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour au Congo. Les élections législatives et locales se sont déroulées dimanche. Des élections caractérisées, selon la société civile, par un fort taux d'abstention. Une cinquantaine d'observateurs de la Commission de l'Union africaine, conduite par l'ancien premier ministre malien Diango Sissoko, y ont pris part. Pour en parler, John Lyndon, adjoint à Brazzaville, Eloge Nzongbo, coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et de développement.
Le principal constat qu'on peut retenir de cette échéance, c'est la grande abstention. C'est en fait la sanction silencieuse des citoyens qui ont refusé massivement d'abord d'aller voter parce qu'il y a eu un taux d'abstention très fort et qui est dû au fait que ce scrutin n'était pas le bienvenu. Ce n'était pas le moment d'organiser ces élections dans ces conditions que vit le Congo aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de questions qui devaient être réglées au préalable, en amont. Il y a la question de la gouvernance électorale, il y a la question de la crise dans le pool, et la question des prisonniers politiques, qui sont autant de situations qui n'ont pas permis justement aux citoyens d'adhérer à ce processus, puisqu'il y a beaucoup de déficits en matière de démocratie.
Ce fort taux d'abstention dont vous parlez est certainement le résultat du mot d'ordre de boycott qui avait été lancé par une certaine partie de l'opposition. Est-ce qu'à votre avis, la politique de la chaise vide, ça paye?
Non, la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous, en tant que société civile, nous n'avons pas, parce que nous sommes membres de la campagne Tournant la page, nous avons été très clairs, nous n'avons pas appelé au boycott, mais nous avons demandé à ce que le gouvernement reporte ces élections et règle d'abord ces problèmes en amont. Et je pense que les citoyens ne sont pas dupes. Ils n'ont pas besoin d'attendre un quelconque mot d'ordre pour comprendre que ce processus électoral est biaisé d'avance.
Toujours est-il qu'au terme de ces élections, des résultats seront proclamés et ceux qui ont obtenu le vote vont siéger.
Bien, effectivement, puisque le processus est engagé, mais c'est dommage parce que les questions restent toujours pendantes. On ne règle pas de problème.
Une mission d'observateur de l'Union africaine séjourne dans votre pays en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de sa présence sur le terrain par rapport à ces élections?
Je n'ai pas été contacté par ces observateurs de l'Union africaine. J'attends d'attendre leur rapport, de lui leur rapport pour réagir. Parce que nous sommes habitués à ces rapports de complaisance qui sont publiés par certains observateurs. Mais nous espérons que cette fois-ci, l'Union africaine va présenter un rapport objectif.
C'était Eloge Zobo, coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et de développement.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux de la justice sur le continent africain. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture, disparitions forcées. Face aux crimes les plus graves, la CPI est-elle la seule instance internationale compétente? Des petits délits et aux questions administratives, la justice fonctionne-t-elle dans votre pays? Dans les régions les plus reculées, quelle place pour la justice traditionnelle? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Fin cet après-midi à Ouagadougou, le 6e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, sous la houlette des présidents Alassane Ouattara et Roch Kabore. Et dans la capitale burkinabé, d'importantes décisions ont été prises pour déterminer de nouveaux axes de développement et accélérer la mise en œuvre de différents chantiers déjà entamés. De Ouagadougou, la correspondance d'Issa Napo.
Plusieurs dossiers étaient alors du jour pour ce 6e traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. 24 accords, dont 11 nouveaux, ont été passés à l'issue d'un conseil des ministres conjoints entre les deux gouvernements. Cette 6e rencontre au sommet porte différents projets d'envergure, dont les plus emblématiques sont entre autres l'appui énergétique supplémentaire de la Côte d'Ivoire demandé par la partie burkinabé. Quand on sait la problématique de l'électricité au Burkina Faso, avec un passé récent fait de coupures quotidiennes d'électricité, le travail auquel s'attelle avec son homologue ivoirien, le ministre burkinabé en charge de l'énergie, en est des plus attendus, le professeur Alpha Omar. avoir dit ça.
Après ce sixième TAC, la puissance donc fournie par la Côte d'Ivoire au Burkina va être amenée donc à 90 MW au lieu de 80 qu'on avait déjà. Mais on est en train de discuter également pour voir après donc la réhabilitation d'une liaison qui doit arriver à Firkesugo pour voir si nous pourrons arriver à 100 MW voire au-delà. Si nous devons prendre en compte le besoin des mines, également le besoin des ménages et partant de là les bâtiments publics et autres, nous devrons être autour de 700 MW.
La construction d'un pipeline énergétique entre les deux pays et des projets économiques de défense et de sécurité ont été entérinés. Il en est de même pour la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi la question cruciale de l'amélioration du réseau routier et ferroviaire, notamment la très attendue autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, dont la partie ivoirienne est bien avancée sur sa partition, rassure Amédée Koffi Kouakou, il est ministre ivoirien en charge des infrastructures économiques.
Le Premier ministre de Côte d'Ivoire a lancé il y a environ deux mois les travaux du tronçon Yamoussoukro-Tchibissou, environ une quarantaine de kilomètres. Nous sommes en train de faire le bouclage financier pour faire Tchibissou-Boaké. Et après Boaké, faire que ces deux frontières Burkina, ça va continuer. Mais vous savez que ce sont des montants importants qui sont à mobiliser. Sur le corridor déjà de Tchibissou jusqu'à la frontière du Burkina, c'est un peu plus de 1000 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser.
Le Burkina Faso n'est pas en reste, même si ce chantier tarde encore à démarrer, regrette son homologue burkinabé en charge des infrastructures, le ministre Eric Boukouma.
Cette sixième session va connaître une décision importante qui a été prise par le gouvernement burkinabé d'accélérer la mise en œuvre de ce projet qui, comme vous le savez, dans sa première section entre Ouagadougou et Koudougou, longue de 110 km, sera mise en œuvre à travers le mécanisme du partenariat public-privé. Une nouvelle procédure accélérée afin de sélectionner le partenaire privé. Donc dans les six mois, nous serons en mesure de vous donner un planning précis.
Les deux chefs d'État ivoiriens burkinabé, Alassane Ouattara et Rokmak Sakabore, ont ainsi pu défricher et dynamiser un traité d'amitié et de coopération avec 11 accords de plus signés par rapport au précédent TAC et à l'issue d'un conseil des ministres qui a prouvé l'excellence de la fraternité entre les deux chefs d'État et leur peuple liés par l'histoire et la géographie. Issa Napou Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, un jeune chercheur s'engage dans la fourniture d'eau potable. Basé à Labé, à plus de 400 km de Conakry, cet inventeur a fait installer plusieurs centaines de pompes à eau dans son pays. Reportage réalisé à Labé par notre correspondant Zakaria Kamara.
Safatou, quartier périphérique de la ville. Ici, avoir de l'eau potable est un rêve pour de nombreuses familles. L'eau qu'on puise dans ce puits est impropre à la consommation. Si nous mettons de l'eau de Javel, ça tue les grenouilles. Après des recherches, Agui Boubari passe d'une maquette aux premières pompes à piston alternatif. C'est la création de fabrication de pompes à Labé, FAPEL.
Nous avons aujourd'hui amélioré beaucoup les conditions de vie de cette population vulnérable par rapport à l'accès à l'eau et surtout les enfants qui parcourent des kilomètres à la recherche de cette denrée très rare.
L'entreprise fabrique deux types de pompes. Une pompe d'irrigation qui peut fournir jusqu'à 3000 litres d'eau par heure. Et l'autre à usage domestique qu'utilise cette mère de famille. Avant, il fallait faire des efforts pour tirer l'eau du puits. Mais depuis que nous avons fait installer cette pompe, notre puits est protégé et nous sommes soulagés. Dans le bureau de l'inventeur, plusieurs reconnaissances, mais aussi des prix, comme celui qu'il a reçu des mains du président français François Hollande à Paris à l'occasion de la France s'engage au Sud, ou encore le coup de cœur du jury de la start-up de l'année au Maroc. Des distinctions qui donnent des ambitions.
Nous avons déjà entamé le processus pour la certification de la pompe sur le plan national. Après la Guinée, c'est les autres pays qui viendront, comme le Niger. J'étais invité tout récemment au Niger pour la présentation au président de la République du Niger, la pompe FAPEL.
Avec plus de 2000 pompes vendues en Guinée, plusieurs autres au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone et au Niger, Aguibou a fait un grand pas, mais n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De retour de Labé, Zakaria Kamara pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a affirmé que les démocrates s'étaient associés avec l'Ukraine durant la campagne présidentielle l'an dernier. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a réitéré les allégations selon lesquelles un militant du Parti démocrate a rencontré des fonctionnaires de l'ambassade d'Ukraine durant la campagne électorale. S'agit-il d'une contre-attaque suite au scandale de l'ingérence russe dans l'élection américaine? Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur de sciences politiques à l'université de Princeton, Leonard Wanchekon.
C'est tout simplement ridicule, parce que s'il y avait ce problème, il aurait posé avant l'affaire de la collusion avec la Russie. Donc, c'est juste une réponse politicienne et à la limite ridicule, quoi, à cette accusation de collusion avec la Russie. Parce que là, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que ça veut dire que les démocrates ont été chercher des informations chez les Ukrainiens contre Donald Trump et l'ont utilisé contre lui pendant les élections? Ça n'a absolument aucun sens, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une contre-attaque politique, bien entendu, par rapport au scandale de l'ingérence russe dans l'élection américaine?
Oui, ils sont tout simplement désespérés. En fait, ils sont vraiment dans de très mauvais draps par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je pense que le plus important, c'est de comprendre que la Russie, c'est un adversaire des États-Unis depuis la guerre froide, peut-être même avant, et que l'idée même, quoi, qu'il faut aller chercher des informations chez cet adversaire-là pour combattre son ennemi politique à l'intérieur des États-Unis, c'est criminel, à la limite. Et donc, ils le savent. C'est pour ça qu'ils se battent par tous les moyens pour pouvoir distraire les gens, quoi. Exactement. Donc, ça me ressemble un peu à exactement ce qui s'est passé pendant les élections lorsque Donald Trump avait été accusé de comportement sexiste. Donc, le fameux interview où il se vantait donc de harceler les femmes, de courir derrière les femmes, etc. Et puis voilà, au prochain débat, il a fait venir les accusateurs de Bill Clinton. Voilà, donc c'est un peu ce genre d'attitude, ce genre de... Mais j'aurais souhaité qu'on soit en train de parler d'autre chose en ce moment dans le pays, quoi, plutôt que ce genre d'histoire. C'est difficile à accepter. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une porte de sortie, finalement, pour la Maison-Blanche suite à cette affaire d'email?
Il n'y a pas de porte de sortie, parce que les faits sont là et têtus. Ils vont essayer de se débattre. Ils vont essayer de se défendre sur le terrain purement légal pour ne pas se faire accuser. Voilà. Moi, je pense que il n'y a rien qui va se passer tant qu'il n'y a pas d'élection et que les électeurs et le public en général désapprouvent ce genre de comportement de façon assez sérieuse, quoi.
C'était le politologue Leonard Wanchekon de l'Université de Princeton.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Patrick Lumumba. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.